Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour. Le projet de budget de l'État exercice 2025 s'équilibre en ressources et en charges pour un montant de 2394,2 milliards de francs CFA contre 2179,1 milliards de francs CFA dans la loi de finances de l'année 2024, soit une hausse de 9,9%. Le projet de loi de finances exercice 2025 a été examiné et adopté hier en Conseil des ministres. Nous évoquerons le sujet dans cette émission Club de la presse de ce mercredi 27 novembre 2024. D'autres sujets de l'actualité seront évoqués par les journaux, seront également analysés dans cette émission par mes confrères, bien sûr, en studio avec moi. La mise en onde de l'émission de ce mercredi est assurée par Kiki Sosa. Jérôme Dakoucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci de nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes là, à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi alors du monde entier. Et c'est avec mes confrères en studio, avec moi, confrère qui a déjà répondu à notre invitation, c'est Jacques Lemou. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal.
Comment tu vas?
On se porte bien, on rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu et pas à pas, on tend vers la fin de l'année.
Oui, on peut dire. Comptant vers la fin de l'année, le mois de novembre a si bien couru, si on peut le dire ainsi. Mais on rend grâce que malgré toutes les difficultés que nous connaissons, on est en vie. Et je profite de votre chaîne Canal FM pour dire un sincère bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Et bravo parce qu'on tient bon.
C'est l'essentiel. Merci. Jacques Lemou, je rappelle que vous êtes confrère journaliste de Radio Auréole. Oui. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. L'autre confrère qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Yannick Agbouka. Yannick, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la 93.5.
J'espère que vous allez bien.
À Dieu fait grâce, on se porte à merveille.
Voilà, vous rejoignez l'équipe, hein, l'équipe comme cela, et je pense quand même que c'est un plaisir de vous avoir.
Non, c'est toujours un plaisir de porter l'information à l'endroit de nos valeureuses populations qui sont toujours à la quête de la vérité et à la quête du mieux-être.
Tout à fait. Votre journal, c'est bien sûr, vous êtes directeur de publication du journal ou du site d'information Empreinte TG, c'est ça?
Oui, empreintenews.tg.
D'accord, empreintenews.tg. Merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. Alors, santé, nous parlons santé, puisque déjà chaque mercredi, santé, éducation est dans le kiosque. Gadiel Tognadi est là. Gadiel, bonjour.
Ceux qui nous écoutent, auditrices et auditeurs de Canal FM.
Voilà, il semble que votre micro a un petit souci. Si vous préférez bien quand même vous déplacer pour que nous puissions mieux vous écouter depuis chez nous à la maison. Là, je me mets un peu à la place alors des auditeurs. Alors, Gadiel, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
On remercie le Seigneur et chez vous.
Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. On remercie le Seigneur aussi. Tel que je le disais, le journal Santé Éducation est dans les kiosques ce matin et vous vous intéressez toujours à des sujets liés à notre santé. Vous préconisez même d'ailleurs ou vous proposez des recettes pour une bonne santé. Et ce matin aussi, vous êtes revenu sur un sujet qui doit nous tenir à cœur. Et c'est bien le sujet à l'heure de l'eau. Et vous écrivez à la une à l'heure du journal Santé Éducation, 8 façons de boire l'eau pour se traiter. Est-ce qu'il y a aussi des manières ou des façons de boire l'eau pour vraiment se traiter?
Absolument, vous savez, l'eau, c'est la boisson adéquate que Dieu a faite pour l'organisme. Donc, c'est le liquide, mais la boisson qu'on doit boire. Si on passe toute une journée, du matin jusqu'au soir, il faut boire de l'eau. Et suffisamment d'eau pour le corps. Parce que l'eau, c'est un aliment pour le corps, c'est un aliment pour la santé. Hein? Donc, ce n'est pas une boisson de plaisir. Mais c'est vrai que nous pouvons passer toute la journée sans boire de l'eau, ou bien suffisamment de d'eau, et c'est très mauvais pour notre santé. C'est très mauvais pour le métabolisme, c'est très très mauvais pour la longévité. Alors, on doit boire de l'eau. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir d'abord quelle eau nous buvons. Et dans le pays, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour assainir ces promoteur de sachets ou bien de marques d'eau, même s'il y a encore des brebis galeuses dans le circuit, parce qu'il y a vraiment certains sachets d'eau, quand on les prend, vous-même vous sentez que ce n'est pas du tout cela. Mais il y a quand même l'effort qui est fait pour qu'on ait de l'eau potable à boire. Maintenant, il y a des questions. Si vous êtes un hypertendu, si vous êtes un diabétique, si vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, quand vous devez boire de l'eau, quand vous devez boire de l'eau. Aujourd'hui, il y en a, quand ils mangent, ils peuvent descendre 2 gobelets d'eau à table. Est-ce que c'est conseillé? Il y a d'autres écoles qui disent que votre dernier verre d'eau doit être pris avant 18 heures pour éviter d'uriner la nuit. Et parce que si vous voyez, il y en a qui sont très friands d'eau fraîche, d'eau glacée. Alors, tout cela, ça crée des problèmes. Alors, nous avons lu une étude intéressante d'un médecin russe qui a passé toute sa vie à appliquer de l'eau, à recommander de l'eau, bien à prescrire de l'eau à ses patients, et il a eu des résultats assez satisfaisants. Donc, un article que nous recommandons à nous tous, comment nous devons boire de l'eau pour notre santé.
Et c'est absolument important. Et quelle eau boire, c'est aussi important. Tel que vous l'avez évoqué tout de suite, c'est quel type alors d'eau nous devons boire?
De l'eau naturelle, de l'eau potable. Voilà, de l'eau potable.
Et qui fera surtout du bien pour notre organisme, puis surtout que notre corps ou notre organisme est composé en majorité alors d'eau.
C'est ça, donc c'est la meilleure boisson. Et vous savez, il y a des gens, quand ils prennent d'autres boissons, que ce soit des sucreries, alcool, et mettre cela à la place de l'eau, c'est un très mauvais caractère, c'est très mauvais. L'eau, c'est l'eau. L'eau n'est pas remplaçable. Même si vous avez pris des bouteilles de jus, je sais pas, ce n'est pas encore l'eau. L'eau, on doit la prendre. Et dans l'article, c'est dit même que chacun doit prendre de l'eau selon son poids. Et comment il faut le faire? Il y a une formule dans cet article, un travail intéressant que ce médecin russe a fait, qui peut nous profiter. Lisons et voyons ce qu'on peut tirer dedans.
Tout à fait. C'est un article à lire dans votre journal, paru aujourd'hui, bien sûr, Santé Éducation. Alors, vous parlez aussi de la marche et vous écrivez « Marcher pour éliminer la graisse du foie ».
Vous savez, le foie, c'est un appareil central pour l'organisme, pour la santé. Et le foie est un organe épurateur. Paraît-il que c'est le seul organe qui n'est pas vraiment au repos, même si on dort, parce que ça tourne encore.
Et il y a aussi le cœur.
Oui, ben voilà. Mais la fonction du foie est assez très chimique, assez transformatrice. Et il faut vraiment voir du côté de la santé du foie. D'abord, c'est pas la bonne alimentation et pas une bonne hygiène de vie. Ça passe par là. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Et dans cette hygiène de vie, il y a le sport, l'exercice physique. Est-ce que vous voyez, Pascal?
Oui.
Peut-être qu'on va en parler. On va parler tout à l'heure de l'enquête STEP avec les résultats des maladies cardiovasculaires et des maladies non transmises d'une manière générale. Nous devons marcher, nous devons faire le sport. Mais la marche a été repérée par les scientifiques comme l'une des disciplines les plus faciles, les plus accessibles à tout le monde. Hein, et nous devons marcher. Vous savez, on aime à le dire, nos aïeux africains, même nos parents, hein, nos parents avaient marché. Il y a des gens qui marchaient d'Aïdogomé au Grand Marché et retournaient du Grand Marché à Aïdogomé chaque jour. Aujourd'hui, vous et moi, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous voyez? Nous devons marcher. Et la marche fait du bien à pratiquement tous les organes de notre organisme, dont le foie. Si le foie est gorgé de graisse, c'est très mauvais pour la santé d'une manière générale. Donc, le foie doit être dégraissé. Et l'une des meilleures manières de dégraisser le foie, c'est de marcher. Et comment marcher? Combien de temps marcher? C'est en tout cas quelques pistes qui sont proposées dans cet article. Très important pour nous tous. Et comment savoir si on a un foie couvert de graisse? C'est la fatigue. Il y a des gens qui se lèvent, ils sont très fatigués. Ils n'ont pas d'appétit. Ils dorment très mal et ils ne sont pas concentrés. Est-ce que vous voyez? Et puis, on a aussi une mauvaise digestion. Donc, si on a ce genre de signes, ça peut être que le foie n'est pas en bonne santé. Il faut aller consulter. Alors, si vous faites la consultation et on trouve ce genre de foie, il faut marcher. En plus des traitements, il faut marcher. C'est une condition assez importante pour avoir la santé du foie. Un article que nous recommandons aussi à nous tous.
D'accord, un article que vous recommandez à nous tous. Et c'est un article à lire, bien sûr, dans le journal Santé Éducation, paru ce matin. Alors, je suis intéressé également par cette interview. Cette interview que le médecin lieutenant colonel professeur Bani Aklesso, coordonnateur national du projet Scapegoat, tel que vous le disiez tout de suite. Et dans ses propos, on lit ceci, un extrait même d'ailleurs de ses propos, service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Et justement, c'est sur cette question de la couverture sanitaire universelle que vous avez fait, que le professeur vous a accordé cette interview.
Absolument, sur le projet service de santé essentiel de qualité pour une couverture santé universelle, Sécu, qui est un projet qui accompagne ce projet d'assurance maladie universelle et qui est chargé, entre autres, de financer la construction et la réhabilitation des formations sanitaires. Et vous le lisez dans le titre, le professeur disait qu'il y a déjà un certain nombre de formations sanitaires qui sont déjà construites, il y en a qui sont en train d'être livrées, et aussi le matériel, parce que quand on construit un hôpital, il faut le plateau technique, est-ce que vous voyez? Et on a vu que tout dernièrement, le Togo avait en tout cas, s'est procuré d'un certain nombre de matériels qui sont actuellement en circulation, si on peut le dire, mais qui sont en direction de vers certaines formations sanitaires à l'intérieur du pays. Donc, c'est un projet qui accompagne cette politique d'accès universel aux soins et d'assurance, en tout cas de l'assurance maladie universelle, d'accompagner. Et c'est un projet aussi qui accompagne les deux structures qui sont en charge de l'assurance maladie universelle actuellement, notamment l'INAM et la CNSS. Donc, une interview que nous recommandons professionnelle, très important, connaître ce projet, ce que ce projet fait dans l'accompagnement de cette politique d'assurance maladie universelle.
Et quand vous parlez alors des matériels qui ont été distribués dans les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national tout récemment, alors la question a été discutée même hier en Conseil des ministres.
Absolument, voilà.
Le ministre de la Santé qui a donné une communication autour de la question. Et je pense quand même que c'est un article très intéressant à lire, une interview très intéressante à lire. Et vous vous intéressez aussi au diabète? Et vous écrivez miel et diabète. Je ne sais pas si les deux peuvent faire chemin ensemble. Et vous écrivez miel et diabète, conseils et recommandations.
Oui, vous savez, Pascal, on déconseille aux diabétiques de prendre du sucre. Et souvent, ce que se dit dans nos communautés, c'est de remplacer le sucre par le miel. et des gens qui sont diabétiques tombent directement sur le miel. Bon, je ne sais pas si c'est recommandé, mais ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon parce que le miel aussi, c'est du sucre. Hein? C'est du sucre naturel, mais qui a beaucoup de vertus. Et son niveau énergétique aussi est élevé. Donc, un diabétique qui doit prendre le miel doit d'abord connaître sa glycémie. Donc, quelqu'un qui est très collé à son médecin, qui suit les traitements, et il doit prendre quelle quantité et quand prendre le miel. C'est ce genre d'énigme qu'on essaie de résoudre dans cet article. C'est très important parce que ça fait des drames dans nos communautés, dans nos maisons. Des gens qui tombent sur le miel parce qu'on a dit « laissez tomber le sucre, allez vers le miel ». Et ça fait des drames. Donc, c'est assez important de dire d'abord « stop aux diabétiques par rapport au miel ». Ah, maintenant, celui qui doit prendre du miel ayant le statut de diabétique, là, il doit lire cet article. C'est absolument important pour préserver la santé des diabétiques.
Alors, et c'est vrai que c'est très important pour la santé des diabétiques. Ce qui est encore important pour nous tous, hein, c'est-à-dire en matière de santé, c'est aussi le rire. Le riz, vous nous dites même d'ailleurs, vous écrivez que le riz est efficace contre le stress.
Parce que la semaine dernière, on avait parlé de la nervosité ici.
Tout à fait.
Et on a dit, la nervosité avait toutes ses conséquences sur la santé cardiovasculaire. Ce n'est pas bien. Alors, cette semaine, on propose le rire. Nous sommes en fin d'année. Bon, les bilans ne sont pas vraiment ceux-là. Au niveau des institutions nationales comme internationales, en Afrique, on patauge hein, au niveau des bilans, même au niveau personnel, des gens vont faire un mauvais bilan parce que ce qu'on a programmé en début d'année jusqu'à maintenant, très peu sont arrivés à leur résultat. Donc, on n'a pas le sourire, on n'est pas content. On n'est pas content et quand vous voyez dans nos bureaux, dans nos services, ce n'est vraiment pas ça. Mais des études nous prouvent que ceux qui démystifient tous ces soucis et qui passent le temps avec leurs collègues en famille à rigoler un peu, cela contribue énormément à gérer le stress et à participer à la santé. Donc un article important que nous recommandons aux professionnels, comment mêler le rire ou bien le sourire à la santé, au travail, c'est très important.
D'accord, nous devons tous ensemble sourire, c'est important. Merci, Gadiel Tsodwadi. Merci d'être passé alors dans cette émission. Tous ces articles, c'est justement à lire dans votre journal Santé Éducation paru ce mercredi. Quelles sont les conditions pour avoir le journal?
Bon, le journal, il faut aller dans certaines pharmacies. Les pharmacies sont dans le journal et puis dans certains kiosques aussi. Et puis surtout, la version numérique à télécharger sur notre site internet santé-education.tg. Et puis, c'est assez 100 francs. Et puis, on a l'essentiel.
Gazia Tudandi, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Et tel que vous l'avez dit, ces sujets que vous venez alors de décrypter sont tous à lire dans votre journal Santé Éducation. Et donc, nous demandons aux auditeurs et d'aller alors acheter le journal Santé Éducation pour retrouver tous ces articles qui leur fera incessamment, ouais, leur feront, j'allais dire, incessamment alors du bien. Merci, Gadiel, d'être passé dans cette émission. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau alors pour faire notre débat. Alors, on va s'intéresser à ce premier sujet. Ce premier sujet, c'est le journal Le Magnat Libéré qui nous donne bien sûr ce premier sujet. Le journal écrit à la une ou à sa une ce matin, à l'approche des fêtes de fin d'année, alerte, danger, le trafic se multiplie par 3. Et prudence et vigilance sur nos routes. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, Jacques, nous avons toujours constaté que à l'approche des fêtes de fin d'année, on a toujours ces trafics hein, sur nos routes, de telle enseigne que la circulation devient dense. Mais il est très important de faire plus de prudence ou de faire preuve alors de prudence.
Oui, vous l'avez bien dit, à l'approche de la fin de l'année, on constate toujours une forte mobilité des passagers, des usagers sur nos routes. C'est normal, même si parfois je ne comprends pas pourquoi. C'est comme si on s'était caché quelque part et aussitôt on apparaît, c'est un phénomène peut-être naturel, mais ce qui est sûr dans la réalité, c'est ce qu'on constate. Et par rapport au cas d'accidents que nous connaissons ces derniers temps, on constate que ça se multiplie. C'est vrai que le dernier bilan trimestriel n'est pas encore rendu public.
Tout à fait.
Mais déjà, on constate que pour en tout cas, chaque jour que Dieu fait, vous allez entendre les bruits des sirènes ici et là, et qui prouvent que, en tout cas, je sais pas, tous les jours que je fais usage de ces routes-là, il suffit de constater un peu sur la route, vous allez voir qu'entre-temps, à ce carrefour, il y a eu des vitres qui sont cassées. Vous comprenez, en même temps, avec quelques égratignures qui sont sur ces routes-là, que entre-temps, il y a quelqu'un qui a été secouru, un accident qui est passé par là. Et franchement parlant, s'il y a quelque chose encore à ajouter ou à rappeler, c'est pas seulement la prudence, mais beaucoup plus la prise de conscience des uns et des autres. Parce que les comportements sur nos routes, jusqu'aujourd'hui, franchement, c'est désolant. Parfois, on se demande si nous-mêmes, nous avons décidé de nous vendre à la mort. Parce que vous voyez quelqu'un qui conduit. Hier, j'étais là, sur la route, et il y a un motocycliste qui était en allure pas possible et qui faisait des gymnastiques entre les autres engins. Et juste à moindre, tu sens qu'à moindre geste, le gars, il tombe, il pourra pas se relever. Et ça, c'est sur nos routes. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi dans les agglomérations, en pleine maison, ces ruelles qu'on retrouve en pleine maison, les gens vont se mettre aussi à courir, en tout cas à conduire avec des vitesses, à une vitesse pas possible. Et hier même, il y a un conducteur qui a failli, faucher un petit sur cette ruelle là, en tout cas je peux dire à côté de notre siège. Et franchement, quand tout le monde sort et quand vous faites ça vous intrigue et vous demandez, mais si vous n'avez pas, si le gars ou celui qui conduit n'a pas le sens de sa vie, mais est-ce qu'il ne réfléchit pas, est-ce qu'il n'a rien à voir avec les autres? Parce que là, c'est pas vous seul, hein. Parfois, je me demande, c'est-à-dire, vous êtes au carrefour et vous savez très bien que, quel que soit, même si vous n'avez pas, eu l'occasion de faire le code, vous savez très bien qu'au carrefour, au moins, il faut ralentir.
Alors, c'est le bon sens.
Ça, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Mais quand vous êtes au carrefour, c'est maintenant que vous mettez la dernière vitesse. Et qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que vous-même, vous foutez pas mal de votre vie. Et mais celui qui est là, qui est devant, ou bien celui qui serait en train de passer, ça veut dire que vous mettez sa vie aussi en danger. Et là, c'est ça. C'est là où il faut interpeller les uns les autres. Et je pense que toutes les associations qui militent dans ce sens-là doivent sortir pour sensibiliser davantage, parce que c'est le moment ou jamais. On parle souvent des maladies, comme on l'a dit, mais la route tue énormément, et là on peut contribuer à ce qu'on puisse réduire davantage les cas d'accidents que nous connaissons sur
voilà. Yannick, c'est vrai que quand nous disons d'habitude que la route tue, j'ai un ami qui dit, mais Pascal, ne dites pas cela, ce n'est pas la route qui tue, c'est nous-mêmes qui nous tuons.
Non, il faut dire que à chacun sa manière de voir la chose, mais le constat est là, c'est qu'il y a perte de vie dans vie humaine, et c'est ça la réalité. Mais ce que moi je voudrais dire aussi, c'est que il faut que certaines lois qui se prennent par les autorités commencent par entrer en vigueur. Vous savez, il y a dans ce pays, on a interdit aux gros camions de circuler en pleine journée. Vous voyez, si peut-être on peut faire recours à ces lois, je pense que ça va désengorger non seulement les routes, mais ça va éviter aussi beaucoup d'accidents.
Il y a des lois qui sont prises, mais ou des arrêtés qui sont pris, mais finalement qui ne sont pas respectés, et il n'y a rien pour sanctionner et pour dire que non, cette loi doit être respectée.
Non, dire qu'il n'y a pas de sanction, je peux dire que je peux m'inscrire en faux, mais c'est que les sanctions ne sont pas peut-être connues de nous tous. Il faut aller aux sources pour avoir les... Sinon, sur les routes, il y a les sanctions qui se prennent chaque jour. Même récemment, cette année, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a pris... c'est une décision de sécuriser parce que les engins à trois roues et les quand vous voyez la manière dont les taximen ils prennent les passagers sur les routes, ça dit que tout à l'heure le véhicule peut s'arrêter sans chercher à savoir qui est derrière moi ou qui fait quoi. Et c'est la mauvaise application du code de la route qui amène tout ça. Et vous allez voir que c'est des gens qui, des vies humaines qui partent comme ça. Mais il faut dire aussi que, en fait, fin d'année, ce sont des familles qui reviennent aussi, et peut-être de l'étranger, pour être ensemble. Ce qui fait qu'il y a, ça dit, un effectif qui s'accroît à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Mais non seulement ces périodes de fin d'année, mais aussi, il faut dire, souvent en début de week-end aussi, c'est pas ça. L'affluence est de, peut-être, aux heures de pointe, vous voyez que même vous pouvez passer une heure de temps en Goslo, par exemple. C'est ce qui démontre vraiment que il faut réfléchir dans ce secteur des transports pour sauver des citoyens, parce que ce sont des bras valides qui partent comme ça et le pays a besoin d'eux pour son émergence. Donc, d'accord. Voilà.
Nous sommes rejoints par Justin Nani. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien.
Dieu merci.
Je suis là depuis.
Je le sais. Merci surtout pour la patience.
Au moment où
merci pour la patience.
De santé, santé éducation.
Justement, il faisait sa chronique, et justement, je comprends. Voilà. Alors, oui, justement, nous sommes en train de parler de cette situation des accidents sur nos routes, surtout enfin, dans les périodes alors de fin d'année. On constate quand même que ça devient de plus en plus récurrent. Et, mais finalement, on se poserait la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et que c'est à la fin d'année qu'on retrouve plus alors d'accidents? Est-ce que c'est parce que à la fin d'année, nous sommes plus pressés à faire vraiment nos activités, ou encore peut-être qu'il y a des maladresses que nous commettons surtout sur nos routes?
Oui, c'est le constat, malheureusement. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui presse. Parce que généralement, lorsqu'on arrive vers la fin de l'année, tout le monde est pressé et on note des cas d'accidents pas possibles.
Donc, on dit que mais il y a peut-être un bilan à faire à la fin d'année. Et donc, on doit rapidement, quand on voit que le temps presse, et donc finalement, il faut arriver rapidement à faire les choses avant que la fin d'année ne soit bouclée.
On doit faire le bilan, mais la vie est précieuse. On ne peut pas se départir d'un certain nombre de regards observés en matière de conduite et pour se donner la mort. C'est là où moi je dis que on se tue. C'est pas forcément la route qui tue, mais le citoyen lambda a choisi de se tuer. Et dans un certain nombre de pratiques, lorsqu'on parle d'accident, moi je me dis que les responsabilités sont partagées. L'État a sa part de responsabilité, les usagers de la route ont quand même la leur. À partir de ce moment-là, je pense que chacun, à son niveau, doit jouer la partition pour éviter tout ça. L'État, dans la mesure où il y a lieu quand même de sévir, comme quelqu'un a eu à le dire tout à l'heure, des arrêtés ou des lois sont prises, au sens que les groupes porteurs, à une heure donnée, n'ont pas le droit de circuler. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Et en dehors de ça, ceux-là qui sont chargés de contrôler l'état de nos routes, l'état de ces usagers-là, l'état de ces chauffeurs-là, de ces transporteurs-là, n'arrivent pas à le faire. C'est ce qui fait que lorsqu'ils se retrouvent, donc un billet de banque passe par là, et puis bon, on laisse faire. Peut-être que le conducteur n'a même pas de permis, l'état de son véhicule ne le permet même pas de circuler, et on ferme les yeux là-dessus. Sur ces bases-là, moi je pense que l'État est responsable. Maintenant, pour les usagers, il y a certains même qui se donnent à l'alcool, dont l'État ne leur permet pas quand même de circuler. Mais ils le font. Et d'autres, comme quelqu'un lui a le dit tout à l'heure, roulent comme si quelque part, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire ça chez vous ici, et comme si l'original de sa vie se trouve à la maison, c'est la photocopie qu'il transporte. C'est autant d'éléments qui amènent à réflexion. Donc moi je dis que au-delà de tout, l'État doit veiller à ce que les citoyens soient en bonne santé, à ce que nos routes soient en bon état, à ce que nos routes soient quand même électrifiées, à ce que un certain nombre de choses soient quand même mises en valeur et tenir compte de leur respect. Donc en le faisant, je pense qu'on peut diminuer ce qu'on est en train de voir là. C'est vrai, c'est pas seulement le Togo, parce que je suivais une émission sur une chaîne ivoirienne la fois dernière. On donnait le bilan de ce qui s'est passé sur une route au nord de la Côte d'Ivoire, mais je me suis tombé des nuits, je me pose beaucoup de questions. Que apparemment, bon, tu connais bien peut-être la ville d'Abidjan. Je vois l'état des routes là, je peux comparer ces routes par rapport à ce que je vois ici à Lomé, encore moins à l'intérieur du pays. Mais si ces cas d'accident se produit également là, avec le nombre là que j'ai eu à suivre la fois dernière, je me suis posé beaucoup de questions. C'est là où je vous rejoins en disant que peut-être que c'est le bilan qui passe par là, tout le monde est pressé, ou ce qui se passe, les surcharges, on n'arrive pas à respecter. Bon, lorsque vous passez un billet de banque à un agent de sécurité sur la route, qui est chargé même de contrôler, vous passez. Maintenant, si ces pratiques-là ne sont pas tellement diminuées dans nos habitudes, notamment en Afrique, je pense qu'on arrivera à ce genre de situation. Mais j'interpelle les autorités pour dire que lorsqu'il sera question encore de nous faire le bilan de ce qui s'est passé cette année, notamment en termes d'accidents sur une route, qu'ils tiennent, ces autorités-là, qu'elles tiennent compte d'un certain nombre d'éléments à donner à la population. Comme ça, bon, dans les années ou les jours à venir, on verra dans quelle mesure on peut quand même mettre en pratique ces recommandations-là.
Mmh. Jacques, c'est vrai que juste parler de l'état de nos routes, tout de suite, il y a le journal La Dépêche qui écrit « Route Lomé-Vougan, une étroitesse qui tue des vies ». Alors, quand on prend le sujet comme tel, on se dit, mais peut-être... la route est tellement étroite là-bas, c'est pour cela que le journal même en parle. Maintenant, après tout, il faudrait quand même qu'on soit conscient du fait que nous sommes en train de traverser sur une route.
Oui, justement, là où monsieur Anania, le confrère Anania a chuté, ça m'intéresse un peu parce que là, c'est vrai que quand on fait les bilans, on essaie un peu de donner certains détails, mais je pense que à partir d'un moment donné, il faut commencer à loger certaines causes dans chaque paramètre donné. Quand je prends par exemple l'usage de nos routes, alors est-ce que lorsqu'on fait le bilan, on implique en tout cas l'entretien des routes, est-ce qu'on prend en compte sérieusement ce paramètre? Si on prend en compte ce paramètre, ça va nous interpeller, ça pourra nous aider à voir quelles sont ces routes-là qui sont par exemple étroites, et parce que c'est une réalité aussi, on ne va pas se cacher, se voiler la face. Quand vous prenez par exemple la route, disons, devant protestant, le collège protestant. Oui. Mais il suffit d'avoir deux véhicules. Et si c'est gros porteur, les deux camions, il n'y a plus de place pour que les engins à deux roues puissent passer. Ça, si, c'est étroit. Alors que c'est une grande route. Alors, quand on prend ça, c'est un paramètre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça.
Oui, mais Jacques, là, le paradoxe, c'est que. On voit des voies qui sont larges, mais au même moment, c'est sur ces voies qu'il y a encore plus d'accidents. Quand on prend la voie de Adido Gomé, la nouvelle voie d'Adido Gomé, en allant à Palimé.
Justement, voilà, ça fait partie aussi des paramètres liés à l'état de nos routes. Parce que là, la route est large, oui, mais il y a d'autres. Quand on prend par exemple les feux. Les feux tricolores. Est-ce que ces signalisations-là, aujourd'hui, sont en bon état? Est-ce que ces signalisations répondent réellement? C'est aussi de ça qu'il s'agit. Entre-temps, je sais que on nous avait dit que c'est des voleurs qui viennent couper les câbles, ce qui fait que les feux de signalisation ne marchent pas bien et tout. Mais c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas blaguer. C'est comme... quand on nous dit, par exemple, qu'il y a une pandémie, toute la mobilisation qu'on met en place, c'est de ça aussi qu'il s'agit lorsqu'on prend ces routes-là. Parce que ça, c'est la vie, c'est une vie, c'est des vies humaines qui sont en danger. Alors, au-delà de ça, lorsque nous prenons d'autres paramètres, comme par exemple les engins, on a parlé des gros porteurs, et il suffit de dépasser Thévier, vous allez comprendre que là, c'est une réalité que vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez tellement peur, et lorsque vous arrivez à destination, vous dites adieu, merci, parce que les gros porteurs, et puis ils conduisent comme ils veulent, n'importe comment, et c'est ça. Et maintenant, quand on vient au niveau des engins dont nous faisons usage, quand on prend les engins à deux roues, vous allez constater que la plupart des accidents, et c'est pour ça que je parle de paramètres, quand on prend ce paramètre-là, on peut faire des vérifications, c'est des données. On peut nous présenter, on nous présente souvent ça, on nous dit que ça provient beaucoup plus des engins à deux roues. Bon, est-ce que on a essayé, comme vous l'avez dit, quand vous parliez, j'ai été un peu, ça m'a rendu un peu confus, parce que moi j'allais dire que dans les pays où il y a plus de d'engins à quatre roues, des véhicules, que de d'engins à deux roues, les cas d'accidents seraient un peu réduits. Et c'est des enquêtes que nous, en tant que confrères journalistes, nous devons faire. Et c'est vrai que c'est une question de moyens. Mais si l'État aussi peut nous faire cette comparaison, ça nous permet de voir, est-ce que, quand on parle d'accident, s'il y a des engins à quatre roues, des plus de voitures que de motos, est-ce qu'on n'aura pas moins d'accidents? Et là, ça aidera, contribuera à ce qu'on puisse, à ce que l'État puisse prendre des politiques, aller vers des politiques qui encouragent l'acquisition des voitures.
D'accord.
Et au niveau de la douane et autres. Ça aussi, c'est des paramètres comme d'autres paramètres liés maintenant au comportement humain. Et c'est de là qu'il s'agit. Je suis un volontaire dans la sécurité routière et je fais la route souvent et je suis indigné de constater que nos comportements parfois, franchement, et ça prend la grande partie, au fait.
D'accord. Ok. Ouais. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à cet autre sujet évoqué ce matin à la une alors du journal La Machette. Je sais que tout récemment, il y avait cette question d'enquête de satisfaction au niveau de la CET. Et La Machette revient sur le sujet écrit « Enquête de satisfaction ». La société verse dans la provocation. Et enfin, le journal s'interroge, hein, bien sûr. Hein, la société verse dans la provocation. Le journal s'interroge. Justin, quand on prend cette enquête de satisfaction aujourd'hui au niveau de la société, on connaît les délestages, la coupure de courant. C'est ces derniers temps. On a envie de poser la question de savoir est-ce que la société a besoin encore de faire une enquête alors de satisfaction.
La société ne peut que se réjouir de son travail qui est fait parce que c'est une institution qui travaille, qui se bat d'une manière ou d'une autre, peut-être avec ses moyens de bord. Donc la société ne peut que s'en féliciter. Mais dans l'opinion, le constat est là. Donc lorsqu'il est question aujourd'hui de parler de branchement dans les maisons, d'aller dans les coins les plus reculés, vous allez constater que la plus grande partie du pays est encore dans le noir. Donc, la question de savoir quand est-ce qu'on va sortir de cette obscurité. Et toute la problématique est là. Maintenant, ceux qui ont ce moyen-là d'en avoir, cette électricité-là, c'est la couleur à la bannière. Vous travaillez à un moment donné, c'est la coupure qui ne dit pas son nom. Bon, on parle de délestage qui ne dit pas son nom. On évoque un certain nombre de raisons. Mais toujours est-il que le problème est là, ou la problématique est là. Donc, sur cette base, on doit quand même chercher à trouver des solutions. Maintenant, si une enquête est faite, et que le résultat de ces enquêtes, ou de cette enquête-là, donne une satisfaction à la société, les agents de la société, en premier lieu, son directeur ne peut que s'en féliciter. Mais dans l'opinion, je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est là où le confrère même parle de la provocation. Mmh. Et il s'interroge si c'est pas de la provocation. À chacun de faire son opinion.
Justement, à chacun de faire son opinion. Alors, Yannick, quand la société décide de faire une enquête de satisfaction, elle est en droit quand même de le faire pour savoir si les usagers, ou du moins c'est ceux qui sont des consommateurs, sont satisfaits de sa prestation.
Et oui, naturellement, je ne veux même pas me mettre dans la peau des premiers responsables de la société. Peut-être que le temps viendra et ils seront là pour mieux nous donner les informations ou ce qui a milité en faveur de cette enquête-là. Mais pour nous, en tant que consommateurs, notre urgence maintenant, c'est d'avoir accès à l'énergie électrique en plein temps, à tout lieu, quand et comment on le veut. Parce que derrière, il y a une induction financière qui suit, qu'on paie. Que ce soit les prépayés ou les postpayés, il y a cette redevance-là que tout consommateur paie. Et il ne faut pas que, du jour au lendemain, au moment où peut-être on a besoin de cette énergie-là, qu'on nous dise, qu'on nous prive de cela. Donc ça fuse des fois. Et devant les urgences, comme je l'ai dit, les priorités du moment, c'est de satisfaire les clients, c'est de satisfaire les consommateurs, c'est-à-dire les nouvelles demandes qui viennent, et les anciens, les plaintes qui viennent, les surfacturations qui viennent des fois aussi, qui sont source de problèmes que l'ASE essaie de régler pas mal. Il y a beaucoup de choses sur la table de la CET. Mais si la CET, en ce même moment où les inquiétudes montent, elle trouve peut-être utile de faire cette enquête de satisfaction. Comme je l'ai dit au départ, moi je ne sais pas les tenants. Je connais ni les tenants ni les aboutissants de cette enquête. Mais quand même, je veux leur faire cette confiance-là que c'est pour trouver de façon holistique tous les problèmes menés à ce secteur de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'activités économiques ont trait à l'énergie électrique. Raison pour laquelle, même quand les officiels ont senti le déficit, on a eu recours à l'énergie solaire pour compléter, pour combler le gap. Mais toujours le besoin est là sur le terrain. Donc il va falloir que la société aille très vite et qu'elle aille sérieusement vers des problèmes, ça dit des problèmes utiles, au D'accord. lieu de tourner autour du pot. Quoi.
Merci. D'accord. Oui, mais Jacques, oui. C'est vrai que Yannick le disait tout de suite, que la société a beaucoup d'inquiétudes déjà des consommateurs sur sa table. Mm-hmm. Est-ce que sur la base de ces inquiétudes, on ne fera pas déjà une enquête alors de satisfaction et qu'on a besoin encore d'aller vers la population?
Oui, quelque part, on peut dire que Yannick a le droit de, en tout cas, de raisonner ainsi. Mais à la fois, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, professionnellement, ce n'est pas de trop, en fait. C'est comme chez les Évé, on le dit souvent, Onyana Voga Biona, comme on le dit en Évé. Ça dit qu'on sait déjà. Peut-être ce dont il s'agit, mais on va questionner pour voir.
Mais ce serait plus scientifique, c'est ça.
Alors, maintenant, sur la base des enquêtes, on a des éléments beaucoup plus scientifiques. Parce que là, c'est des données réelles. On se dit, en tout cas, on peut avoir recevoir des plaintes et autres, mais lorsqu'on fait une enquête, c'est plus professionnel. Parce qu'une enquête, c'est une enquête, comme on l'entend, ce n'est pas une seule question, mais c'est des questions qui sont bien réfléchies. Et à chaque réponse, on a un élément par rapport aux données, parce que là, aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans les data. Donc, moi, je me dis qu'une enquête n'est pas, dans ce sens, n'est pas de trop. Même si je ne maîtrise pas les raisons pour lesquelles l'enquête-là a été
diligenté.
Mais à la fois, il faut que demain, quand les Togolais se prêteront à cet exercice-là, que l'aboutissant soit, en tout cas, aille vers une satisfaction. Parce que, en tout cas, quand on prend le problème de délestage au Togo, je pense que ça commence à durer un peu. On peut vivre une quiétude un moment, un temps soit peu, et après, ça revient. Et nous tous, nous sommes victimes. Et tout le monde s'acharne aujourd'hui. En tout cas, si pour éviter des problèmes, vous êtes obligé d'aller chercher un groupe électrogène et tout. Et ce n'est pas aussi, c'est d'autres charges qui viennent s'ajouter. Et donc, je pense que beaucoup de financements, par rapport en tout cas, à ce qu'on nous a annoncé, il y a la Banque mondiale qui allait financer à des coûts de milliards. plusieurs milliards, et je pense que à cet effet, il va falloir que les choses aillent vite. Et j'espère bien que ces enquêtes-là vont dans ce sens pour peut-être appuyer les financements afin que le problème soit résolu.
Intéressons-nous à une autre institution, c'est bien Togocom. On connaît Togocom sous le nom, bien sûr, de Togocom, mais il semble que nous n'allons plus l'appeler Togocom. Et c'est maintenant IAS, c'est son nom maintenant, avec ses produits, même quand on prend Timoni qui va changer également de nom avec ce nom sur Amis de IAS. Et il y a le journal Le Moyen Libéré qui est revenu aussi sur le sujet, dit « Ne dites plus Togocom, dites IAS, l'innovation qui se marie à l'accessibilité ». Alors, quand on prend le sujet en tant que tel, c'est vrai, hier, sur les plateformes, le sujet a fait débat. Beaucoup de gens se sont dit, mais écoutez, comment se fait-il que on change alors le nom alors de l'entreprise, ou on change le nom de la société? Et ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui a été fait. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et changer le nom d'une institution comme ça. Sûrement que quelque chose a été fait dans la foulée, mais sans qu'on ne le sache. Maintenant, ça a été porté à la connaissance de l'opinion à travers la presse. Et moi, je me demande, qu'est-ce que ça va changer? Puisque le service qui est fourni par cette institution porte tellement confusion, amène un sujet à discussion. Parce que lorsque vous payez et vos data ou vos crédits de communication, on ne peut pas vous imposer un délai d'utilisation. J'en parlais dans une émission ici hier. Et moi, j'ai même oublié par des soucis que nous avons tous. Et puis, j'ai mis une forte somme dans mon appareil. D'un seul coup, ça a été vidé. C'est parce que le délai est parti. Ça voudrait dire quoi, ça? C'est de la naque, c'est de la tricherie. Moi, je suis révolté contre ça. En dehors de ça, vous envoyez peut-être les frais à vos proches. Non seulement vous envoyez par la voie de Timoni, on vous prélève un sou. Le destinataire à qui l'argent est destiné aussi, donc aussi doit payer encore avant de retirer. C'est quoi ça? Mais dans tout ça, je pense que ARCEP a eu à interpeller les associations de consommateurs.
Et même des sanctions aussi.
Voilà, oui. Mais toujours est-il que ça n'a pas changé. Maintenant, aujourd'hui, on se lève du jour au lendemain. Maintenant, on nous dit que ça a changé de nom. C'est parce que ça existe ici au Canada ou je ne sais pas où là.
Dans sept pays alors de l'Afrique, puisque ça devient panafricain.
Ça devient panafricain. Sur quelle base? Sur la base de tricher les citoyens, les concitoyens? Moi, je suis révolté comme ça. Ce n'est pas une histoire de changement de nom, de l'institution ou de quoi que ce soit. Quelles sont les prestations qui sont faites? Quelle est la satisfaction maintenant de l'opinion par rapport à ce service-là qui est rendu? Vous voyagez, vous arrivez chez vous dans le camp village, vous n'êtes plus même en mesure même d'appeler vos proches, vos parents, peut-être pour les rassurer que au cours du déplacement, tout s'est bien passé. Vous appelez, on vous dit que la personne est en dérangement, la personne est ceci durant toute une journée. Vous téléchargez...
Là, vous parlez des problèmes de réseau.
Mais c'est de la narque, moi je le dis. J'interpelle les autorités là-dessus.
D'accord.
Je suis contre ça.
D'accord. Alors, Yannick, c'est vrai qu'on a, en tant que citoyen... Le droit de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui va changer, puisque déjà avec Togocom, nous avons des inquiétudes.
Non, on a le droit de se poser la question, mais il faut le voir sous plusieurs angles. D'abord, qu'est-ce qui a motivé le changement de Togocom en IAS? Qu'est-ce qui a motivé ça? Et normalement, en matière de communication, ça dit, peut-être, je ne sais pas.
Vous estimez que la communication n'est pas bien faite sur le sujet?
Oui, parce qu'il faut que le consommateur soit avisé au moins quelques temps de ce qui va se passer.
Parce qu'on a l'impression que tout dru, on apprend changement.
Oui, ça dit, l'information nous est tombée dessus. On est là et puis on apprend que voilà, ça va changer comme ça et c'est fini. Et c'est lancé comme ça. Au moins qu'on prépare l'opinion à dire, voilà, à partir de tel, on va migrer vers ceci, on veut faire ceci, on veut faire ceci. C'est comme ça. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Et vous avez, avec chaque... Puisque la IAS, qu'est-ce que ça signifie? Pour nous aujourd'hui, qui prônons la consommation locale, nous avons un ministère dédié à ça. IAS, là, c'est quoi?
C'est quoi pour
ça
nous?
Ça vous a dit quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça signifie quoi?
Il faut que les mots que nous sortent. Des fois, chacun est libre de faire sortir ce qu'il a comme initiative ou conception, mais quand même que ça reflète l'image du pays. Qu'est-ce que ça donne?
C'est aussi de la communication.
Oui. Qu'est-ce que ça donne pour le Togolais lambda? Qu'est-ce que ça dit? Et maintenant, ça, c'est le contenant. Maintenant, le contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qui va changer par rapport à tous les problèmes que nous connaissons avec les Togocom? Qu'est-ce qui va changer réellement? C'est là l'interrogation. C'est là l'inquiétude de tout le monde. Est-ce que maintenant, on aura un accès illimité pour nos crédits? Est-ce qu'on aura... Il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Mais, sincèrement, que les premiers responsables de IAS, comme on le dit, nous éclairent de comment on est arrivé à ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Togo? Quelle est la situation?
Une sorte de bilan. D'accord.
Un petit bilan.
Oui, mais Jacques, est-ce que en matière de stratégie de communication, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché?
Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et comme les autres confrères l'ont dit, moi je pense que pour une société de taille comme Togocom et qui, quoi qu'on dise, reste dont l'activité principale est beaucoup plus subtile, parce que là on parle de la communication des télécoms. Vous savez que l'État non seulement a ses actions, mais il y a une partie qui reste en tout cas intimement liée au secret d'État et autres, et qui reste aussi lié à la politique de l'État. L'État a sa main dans cette société, et c'est pour ça que moi je me dis que pour aller dans ce sens-là, il fallait ne serait-ce qu'une conférence de presse pour expliquer, comme ils viennent de le dire, quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision-là. C'est-à-dire qu'on veut quitter un point A à un point B et qui lie toute la population. Parce que là, il s'agit de la communication. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Et c'était trop simple là, et comme ça que l'information vienne seulement et que nous, en tant que les professionnels de médias, publient seulement le changement de nom ou de... Yannick vient de le dire, le contenu, c'est quoi? S'il s'agit, quel était le problème en fait? Ça dit que quel est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte aujourd'hui Togocom à IAS? Il y a quel souci? Parce que nous connaissons déjà certains soucis. Et la population se plaint de beaucoup de choses. Et en tout cas, le personnel de Togocom qui est chargé aussi d'explique. On essaie de se dire, ok, ça va aller. Ok, entre temps, peut-être eux aussi ils ont raison. En tout cas, moi personnellement, pour avoir exercer une expertise au sein de cette société-là, je comprends qu'il y a des efforts. Mais moi, je me disais que ça allait déjà. C'est pourquoi je suis un peu étonné quand j'ai eu
l'information, surtout avec les réseaux sociaux.
Oui, que ça devient IAS. J'ai dit, ben tiens, qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Puisque entre-temps, quand le responsable, quand on avait, je crois, le directeur général... je crois qu'il avait démissionné, ou bien, oui, c'est ça.
Oui, il y avait un changement.
Il y avait un changement, oui, il y avait un changement, excusez-moi. Bon, je me dis que ce changement-là allait apporter quelque chose. Et moi, je suis en tout cas rassuré que les choses, beaucoup de choses se faisaient. Comme je le dis, pour avoir été en contact, pour avoir été en profondeur de certains sujets là-bas, je me dis que beaucoup de choses allaient. Bon, je ne comprends pas pourquoi. On change aujourd'hui de Togocom à IAS. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il faut revenir à la charge pour expliquer à toute la population qu'est-ce qui a motivé cette décision et qu'est-ce que nous gagnons de plus.
Voilà. Puisque la population a besoin vraiment des explications.
Forcément.
Voilà, pour savoir exactement.
Parce que lorsque vous achetez un bien, le bien-là vous appartient. Vous achetez un crédit ou que ce soit de forfait data, ça vous appartient. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, vous dire voilà que vous avez un délai, vous n'utilisez pas et puis on bloque tout. Ça, c'est pas sérieux là.
Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus.
D'accord. Alors, Justin, je reste avec vous. On va changer de sujet. J'évoquais ce sujet déjà tout au début, alors de, dans mes mots introductifs, concernant surtout le projet de budget hein, de l'État, c'est-à-dire la loi de finances. Cette loi de finances qui a été examinée hier en Conseil des ministres, examinée et adoptée, bien sûr, en Conseil des ministres. Ce qui est très important, à comprendre, c'est que déjà le budget du Togo en 2025, ça doit être 2 394,2 milliards contre 2 179,1 milliards pour l'année 2024. Alors, quand on prend ce budget, on comprend également qu'il y a une augmentation de budget de 9,9%. C'est ce qu'on peut noter. Alors, on est en droit aussi de voir déjà, puisque la majeure partie ou la majorité de ce budget sera consacrée au social. C'est ce qui est dit, et c'est ce qui est justement constaté. Tout comme pour cette année 2024. Alors, Justin, quand on prend surtout ce côté social, est-ce qu'aujourd'hui il y a des impacts?
Non, moi je n'en vois pas, parce que lorsque vous analysez, j'ai suivi également la porte-parole du gouvernement sur le sujet ce matin sur une chaîne. À l'analyse, je me dis qu'il n'y a pas eu tellement de changements. Une augmentation de 9% ou de...
Oui, 9,9%.
9,9%, pratiquement 10%. Je me dis que techniquement parlant, peut-être que les experts viendront nous expliquer beaucoup de choses. Mais lorsqu'on parle de la loi rectificative sur la base d'un certain nombre de choses qui concernent également le budget, et il y a des éléments non négligeables. Maintenant, sur la base de ces éléments-là, et par rapport à ce que nous avons vécu cette année, pratiquement l'année qui vers la fin, est-ce qu'on a connu l'amélioration? Sur cette question, je dis non. Et quand je prends le volet de la santé, c'est avec le prêt de la Banque mondiale récemment qu'on arrive à apporter peut-être un soutien dans ce domaine. Mais toujours est-il que beaucoup reste à faire. Dans le volet social dont on parle dans ce budget, je pense que véritablement, s'il doit y avoir augmentation par rapport à la donne actuelle, il y a des éléments sur lesquels on doit véritablement analyser. Je ne sais pas si c'est avec la précipitation, avec la sortie des deux partis politiques au niveau du Parlement qui a fait couler les responsables ou les ministres très rapidement, conseil des ministres, et puis on a sorti ça, ou bien le travail a été fait d'avant. Mais je me dis que aujourd'hui, par rapport aux donnes, par rapport aux besoins sur le terrain, moi j'estime qu'on peut encore porter ce budget-là à la hausse plus que ça.
Mais ça dépendra de ce que nous avons aussi dans la cagnotte.
Effectivement. Et c'est ça qui ramène à ce que le Togo a trop fait des emprunts. Le Togo aujourd'hui est classé parmi les pays surendettés. Donc sur cette base-là, si on arrive peut-être à manager et que c'est l'augmentation, c'est autour de 10% par rapport au budget, c'est à ce juste titre. Mais quand je me réfère également aux déclarations faites par des politiques, les techniciens, les spécialistes en la matière, le Togo regorge aujourd'hui des capitaux morts. Donc, ce qui veut dire qu'on peut transformer ces capitaux morts-là pour en faire une richesse. Et lorsqu'on parle de la production, la richesse est là. Donc, on peut apporter ce budget-là à la hausse plus que ce que nous avons, peut-être éventuellement penser à payer les dettes. Mais si on en est arrivé là, c'est tellement qu'il y a les non-dits et les concernés peut-être viendront à expliquer à l'opinion. Nous ne sommes pas trop spécialistes en la matière. Mais à l'analyse des données, des bases, ce que nous voyons, ce que nous comparons par rapport aux autres pays, notamment le Bénin qui a porté son budget par rapport aux réalités du pays, par rapport aux besoins que nous avons aujourd'hui, et c'est vrai, je pense qu'on doit aller encore au-delà, mais si on porte tellement de gants, on marche sur des œufs, c'est tellement que c'est le problème de la gouvernance qui est là.
D'accord. Alors, Yannick, déjà, avec ce budget qui sera axé sur le social, alors, finalement, prenons ce qui se déroule actuellement avec l'année 2024, bien sûr. On a connu quand même beaucoup de choses, à savoir même la vie chère. La vie chère, on en parle et on continue d'en parler. Mais est-ce que peut-être le budget de l'année 2025 viendra changer tout?
Bon, il faut dire que c'est un bilan qui doit se faire. Mais le constat, depuis, il faut dire au moins, la période post-Covid, au moins, ça dit que depuis un certain temps, le budget est toujours à la hausse. Le budget que le Togo se dote en fin d'année pour une nouvelle année est toujours à la hausse.
Et déjà dans cette année 2024
déjà, oui. Non, témoigne déjà le nouveau budget qui a pris à peu près 10% de hausse par rapport à l'année dernière.
Oui, justement pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est pour dire que déjà pour l'année 2024, on a atteint même le cap de 2000 milliards.
Oui, exactement. Donc on a atteint le cap de 2000 milliards. Mais ce qui est intéressant aussi pour le budget, le nouveau budget qui a été démontré hier en Conseil des ministres, c'est que déjà on se dit approximativement c'est 50% du budget total. 50% vont être investis dans le social. Ça veut dire que c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les transferts monétaires, c'est la salle électricité, les autres. Bon, pour l'année 2024, l'année finissant 2024, on peut dire que il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Par exemple, dans le cadre de l'AMU, le programme Ouizou qui est passé par là, des projets qui sont réalisés, ça dit en communion avec certaines communes également, ça dit vers les populations à la base. Et il y a plein de choses que le gouvernement a eu à faire qu'on a noté. Mais quand même derrière, il y a toujours ce besoin-là.
Des défis à relever.
Des défis à relever parce que quand vous prenez le panier de la ménagère aujourd'hui, c'est pas toujours ça. Hein. Ça dit que il faut être quelqu'un pour parcourir le monde. Et c'est un peu dur parce que à chaque fois les prix ça flambe sur le marché et le minimum vital ne vient pas toujours aisément. Mais derrière il y a les efforts qui se font pour au moins permettre à ce qu'on puisse se mettre à l'aise, mais sur le terrain, il y a assez de choses à faire.
Oh, mais d'accord, ok, merci Yannick. Alors Jacques, c'est vrai que tel que Yannick l'explique, il y a des efforts qui sont faits. On parle même d'ailleurs tout récemment avec le MCA de 16 indicateurs que nous avons validés sur les 20. Mais toujours est-il qu'on voit au niveau même de la population que les besoins sont encore très pressants.
Oui, en tout cas, ce n'est pas seulement au Togo. Ça, il faut le dire, il faut être honnête pour le reconnaître que le monde traverse actuellement des moments difficiles. C'est partout. Ceux qui sont en France, nous le dirons, aux États-Unis, nous le dirons. Maintenant, chaque pays a son orientation stratégique, a son plan de développement. Et je pense que par rapport au Togo, jusqu'alors, c'est la feuille de route gouvernementale qui est en œuvre. Par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de suivre l'exposé de cette feuille de route-là et j'avoue que tous les axes qui sont développés, qui sont vraiment mis en œuvre ou qui sont promus, quand on le voit, c'est du travail. Et par rapport au budget, ce que, comme notre confrère Anani le disait, je suis sûr que si on approche les autorités, nous dirons également que cette somme-là, le plafond-là, c'est malgré eux. Ils auraient voulu aller au-delà. Mais peut-être que c'est dans le secret de la gouvernance. Parce que, je le dis, la corruption, c'est aussi un effort qu'il faut davantage faire. Lorsqu'on n'arrive pas trop à endiguer la corruption, parce que ça aussi, c'est un autre problème, il faut faire rentrer de l'argent. Mais si les fonds rentrent, et on n'arrive pas véritablement à bien les gérer, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Et peut-être, je pense que ces contraintes-là peuvent faire que nous ayons ce plafond-là aujourd'hui.
Ok, d'accord. Cher confrère, merci beaucoup. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Je sais que les uns et les autres, ceux qui nous suivent, sont aussi intéressés par le débat. Ils vont participer. Et pour participer, c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 75, et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ce numéro qu'ils peuvent nous écrire, interagir avec nous à travers notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 pour réagir dans cette émission Club de la Presse. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Votre nom c'est?
Monsieur Nick.
Monsieur Nick?
Oui.
Allez-y.
Bon, c'est par rapport au changement de nom de... Entre temps, on était dans d'autres pays, c'est Togo Sel, ils ont dit on passe à Togo-Com. Mais jusque-là, ce n'est pas un problème. On a toujours le vocable Togo. Ça nous fait plaisir. Maintenant, du coup, ils envoient un nom, Yas, qui n'a même pas de signification dans rien. Bon, on ne se retrouve pas. Ben, en fait, si on veut faire quelque chose, il faut que ça soit joli et même attire. Je ne sais pas celui qui a proposé ça. Il s'est basé sur quoi? S'ils vont changer un nom, on ne refuse pas. Ils n'ont qu'à donner un nom qui a une signification. Au moins, quand on se retrouve dans le Togo, le pays de Togo. Sinon, c'est ailleurs, Benin, comme... Bon, quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas des emplois donnés. Il faut que vraiment ils renoncent à ça. Sinon, c'est trop vilain. Et ça n'a même pas quelque chose de beau. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Niquet, pour votre intervention. Un auditeur qui nous écrit. Bonjour, mes amis. Concernant l'affaire de IAS, c'est toujours l'État qui est derrière. C'est toujours une société d'État. Le gouvernement ne va jamais privatiser Togo Télécom. C'est juste pour faire taire le peuple avec trop de problèmes de Togo Télécom, IAS ou pas IAS. Les problèmes vont toujours demeurer avec les mêmes dirigeants. C'est un jeu de ping-pong. Un autre auditeur que nous recevons. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, je vais bien, c'est Yannick depuis Agoué.
Ah, Yannick depuis Agoué. Oui. Allez-y, Yannick.
Oui, bon, je veux exhorter les Togolais de ne pas s'inquiéter. On a quitté Togo-Sel à Togo-Com, maintenant on quitte Togo-Com à Yas. Bon, sûrement, on veut passer à l'étape supérieure, parce qu'on a changé le nom, c'est Htoukouin à Sylvanus, l'aéroport à Nassingbé, et... La station de Sunshine du nom Wando devient NL Shell, qui est devenu Tuel. Donc, sûrement, on va changer le nom du Togo très bientôt et on va passer au changement de nom de famille. C'est le pays. Merci.
Merci pour votre intervention, Yannick. 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame ici. Oui, allez-y.
Oui, on a changé encore Togo Télécom. C'est tout ça là. Ouais. C'est parce que rien ne frère les gouvernants. Ils ont trop traîné au pouvoir. Rien ne les effraie. Ils gouvernent la République comme, je ne veux pas dire une épicerie, c'est-à-dire ils gèrent la République pour eux. Nous qui sommes là-dedans, ils n'ont rien à faire avec nous, ils n'ont pas de compte à nous rendre. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça se passe dans une république. Et ils n'ont qu'à passer la main pour voir si on va les pleurer, si on va pas rentrer. Et puis, Unico a disparu. Ça traîne, les appareils traînent dans c'est un désordre. Ils n'ont qu'à, c'est fini, quoi. 61 ans, tu ne peux rien apporter à un peuple que de les détruire. Ils n'ont qu'à le savoir. Ils n'ont qu'à le comprendre, quoi. Voilà, merci. Bonjour à tous et à Mendes, à tout le monde.
Merci, Madame Essie, pour votre intervention 90 86 35 35. Allô?
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau. Merci beaucoup pour le respect que vous m'accordez, surtout mon fils Isidore. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci.
Ce que je voudrais dire, je veux parler des accidents. Vous avez dit c'est l'humain. Quand est-ce qu'on sera conscient? Surtout la jeunesse. La jeunesse. Voyez-vous entre, vous et vous donnez des conseils. Les routes sont vastes aujourd'hui. Maintenant qu'il y a des accidents. Vous n'étiez pas encore, mais peut-être certains de vos parents. Vous voyez, les routes étaient étriquées, sans goudron. Quand il pleut, on est obligé d'arrêter certains véhicules. C'est pourquoi un quartier de ce côté porte le nom Barrière. On arrête. Il faut que la pluie sèche, le sol soit un peu sec avant qu'on en ouvre les choses. Mais aujourd'hui, voyez-vous les jeunes, les gogos, bientôt quoi? Ça, c'est le gouvernement qui doit prendre des dispositions. La BR, tout ça là, pour arrêter ça. Sinon, les vies vont partir. Vous allez nous quitter, nos enfants. Alors que c'est à nous de vous quitter. D'abord, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90 86 35 35. Autre auditeur en ligne. Allô.
Allô, bonjour.
Allô, bonjour, Monsieur Gado.
Oui, bonjour, plateau. Bon, vous savez, le Ghana, ils ont aussi la même chose là-bas, c'est Ghana Télécom. Depuis des années, ils n'ont jamais changé. Quand on change, on sait ce que ça ne va pas. On dit, c'est quoi ma Yassi de quoi? Mais si tu prenais même Yassi, c'est bon. Comme ça, nous allons nous rappeler de notre papa Yassi. Hein? C'est pas sérieux. Si ça ne marche pas, pour dire que ça ne marche pas, vous vendez la société, vous vendez. Et le peuple n'a rien dedans. Hein? Le peuple n'a rien dedans. Seulement, on a fait. Mais on défait le riz qui n'est pas bon. Les gens vont aller manger. Et maintenant, vous changez le nom. C'est ça qui nous. Non, tu n'es pas quoi.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mercredi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et aussi, vous pouvez interagir avec nous sur notre WhatsApp 90, 45, 78, 57. C'est ça notre numéro. WhatsApp, si alors nous allons revenir en plateau pour rapidement faire un dernier tour de table. Voilà, il y a un auditeur qui se signale. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va, c'est Richard depuis Copenhague.
Vous m'excuserez. Vous m'avez dit que le président Faure était un master en
économie. Allô.
Oui, vous avez dit que le président Faure a son master en économie, n'est-ce pas?
Allez-y.
Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a son master en économie peut gérer un petit pays comme le Togo, comme ça. Il bazarde les choses de gauche à droite, il s'en fout de tout le monde, il gère ça comme sa famille. Mais comment vous pouvez admettre ça? Du jour au lendemain, on nous donne ce nom. Demain, on nous donne ce autre nom, ainsi de suite, tout ça là. C'est un master qui gère un pays comme ça. Un pays, le Togo, fait 5 fois Paris. Paris seulement, il ne peut pas gérer Paris. Comment il peut gérer le Togo maintenant?
D'accord.
Je ne suis pas d'accord avec eux.
Mais merci.
Il faut dire à tous les membres de l'UNIR là, de se ressaisir. Mais on ne gère pas un pays comme ça. Qui est un master, quelqu'un qui est un master, qui gère le petit pays.
Merci beaucoup, mon cher, je ne sais pas, décidément, c'est pas Richard, de Copenhague. Nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce mercredi. Jacques, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité, telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Oui, j'ai constaté que beaucoup sont revenus sur la question du changement de nom. Et nous, on parle de nom, mais comme on le dit, il faut aller chercher, voir ce qui a vraiment, véritablement changé. Est-ce que c'est le modèle économique qui est en train de changer? en tout cas, c'est des informations très adéquates à avoir. Maintenant, on l'a déjà dit, moi, personnellement, je pense que s'il y avait une communication à la base pour expliquer les raisons qui ont milité autour de cette, je peux dire, mutation ou je ne sais pas, de changement de... puisqu'il faut maîtriser le cadre juridique oui. de la chose. C'est ce qui a poussé à ça. On peut en parler. Maintenant, ce qu'on peut dire, moi, l'essentiel, sans mentir, c'est l'avantage qu'on tire de la chose. Et je suis sûr que si les avantages sont vraiment plus satisfaisants que ce que nous avons actuellement, ben, peut-être que la question de nom serait discutée, mais pas aussi autant. L'essentiel, qu'est-ce qu'on tire? Qu'est-ce qui vient de bien?
Est-ce qu'il y aura l'amélioration?
Est-ce qu'il y aura une amélioration? Est-ce que la qualité du service sera meilleure que ce que nous avons aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que si on ne s'en tient qu'à ça, en tout cas, ceux qui sont à la charge de cette société-là doivent comprendre que autant ils le feront ainsi, autant ils iront vers la meilleure satisfaction de la clientèle, autant on peut la population pourra s'accorder à ces changements qui sont connus.
Alors nous avons un principe de l'émission, c'est la note de fin d'émission, une note de entre 0 et 10 que vous pouvez attribuer soit à une institution ou à une personnalité compte tenu alors d'un fait ou d'un constat que vous avez fait.
Bon, s'il y a une note pour le moment, je ne sais pas si c'est une note que je vais donner, mais c'est par rapport à la cherté de la vie. Je tiens beaucoup à ça parce que les prix, ça dit, tout devient exorbitant, ça augmente au jour le jour, on ne comprend plus rien. Et donc, ce que je sais, c'est qu'il y a le ministère en charge du commerce qui est en tout cas censé contrôler et suivre ce secteur-là. Et pour le moment, je veux donner 6 sur 10 pour ce fait-là, pour que le ministère puisse se relever pour voir ce qui se passe.
D'accord, 6 sur 10 au ministère du Commerce.
Oui, à
d'accord.
Ce niveau.
Yannick ?
Ouais, Pascal, je donne 9 sur 10 à l'exécutif communal du GOV6. Pour avoir démarré le désengorgement.
GOV6, nous sommes à Baguida.
À Baguida, oui. Le désengorgement des réserves administratives illégalement occupées. Ça a commencé avec le CG de Devego. Et d'autres sites sont dans le viseur. Je pense que c'est à mettre à l'actif de l'exécutif communal du GOV6 qui a osé et à sa tête le maire Jean-Baptiste Kofi Dagbovi.
Et finalement, le maire devance même le gouvernement parce que le gouvernement parle plutôt alors d'un an de délai.
Ah oui, il faut aller vite parce que il faut montrer aux partenaires la disponibilité des espaces. Donc c'est sur ces réserves là que les partenaires, les investisseurs viendront pour des projets sociaux communautaires. Donc il faut aller vite. Et puisque ici c'est sous forme de course. Donc quand vous faites vite, vous présentez votre disponibilité, le partenaire viendra à vous. Et selon la disponibilité des ressources, vous pouvez tailler la page du lion.
D'accord. Nous reviendrons sur le sujet le vendredi prochain, bien sûr, dans l'émission Club de la Presse avec le directeur du cadastre, le directeur général du cadastre qui sera notre invité. Nous allons parler de cette question des réserves administratives qui sont occupées on parle même d'ailleurs de 8% de ces réserves qui sont occupées. Nous allons en parler avec le directeur du cadastre. Justin Anani?
Pascal, non, moi je pense que la problématique même du Togo aujourd'hui se repose sur la gestion du pays. Hein. Parce que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, les questions qui sont liées au détournement de fonds, à la corruption, ces problèmes-là doivent forcément trouver leur solution. Je fais allusion un peu par rapport au budget, par rapport à la réalité que nous avons aujourd'hui au pays. Maintenant, il y a un sujet sûrement qu'on n'en a pas parlé, qui parle du rapport du département américain, rapport de 2023, et qui relève qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques au Togo.
Tout à fait, on en parlait le lundi.
Voilà, donc sur la base de ce rapport-là, j'ai eu le temps quand même de le lire, qui met à nu, je ne dirais pas le gros mensonge de l'État, qui fait croire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Mais réellement, il y a eu des détenus politiques au Togo. Il y a des détenus politiques au Togo au jour d'aujourd'hui. Et par conséquent, je pense que les gouvernants doivent quand même tirer toutes les conséquences et libérer ceux-là qui sont dans la détresse. Donc, coucou. Coucou à une charmante dame, Séverine, qui est de l'autre côté, là, Adjala, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Merci pour ce qu'elle fait pour les enfants dans le quartier de Anthony Netimé, la population de l'autre côté.
D'accord. Votre note de fin d'émission?
Ma note de fin d'émission, 2 sur 10.
À qui?
Que ce soit Togo, comme ou c'est pas Yas ou Nyans, je ne sais pas quel nom lui attribuer là.
Parce on parle de Yas.
Yas.
Voilà.
Et en quoi encore?
Y-A-S.
Et le second nom, c'est qui encore?
Miss de Yas.
Miss de Yas. Yas et Miss de Yas. Donc 2 sur 10 pour ces deux structures.
D'accord.
Qui touche la population énormément.
D'accord, merci beaucoup, Justin Anani, d'être passé alors dans cette émission. Jacques Lemou, merci d'être passé aussi dans cette émission, d'avoir participé à ce débat. Yannick Aboukra, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site d'information empruntenews.tg. Jacques, vous êtes au niveau de la radio Auréole. Merci d'être passé. Justin Anani, on le connaît en tant que journaliste freelance qui collabore avec beaucoup de journaux. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous. Kiki Sousa a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.